dans les coulisses de Red Bull Bora Hans Grohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk ? Envoyez-les à tobias.ruf@ovbmedia.de. Et maintenant, profitez bien de ce nouvel épisode.
Il y a eu de tout lors de la 13e étape du Tour de France. Une immense échappée, une poursuite de 100 km par les sprinteurs, une attaque au classement général par Tom Pidcock et la victoire de Mauro Schmidt. L'équipe Red Bull Bora Hansgrohe a été touchée par tout cela à plusieurs reprises. Comme toujours, nous analysons tout systématiquement et pour cela, je salue comme d'habitude le manager de l'équipe, Ralf Denk. Bonjour et salutations des Vosges à Rosenheim. Oui Ralf, nous avons beaucoup de choses dont nous pouvons et devons parler. Je dirais qu'on va reprendre tout ça par ordre chronologique pour commencer. Après une longue bataille, tout semblait bien se passer car une échappée s'est formée à l'avant, certes nombreuse, mais avec deux de vos coureurs, Tim Van Dijk et Maxime Van Gils. Est-ce que tout s'est passé comme prévu ou est-ce que le groupe était un peu trop grand à ton goût, les deux? Donc, j'avais prédit hier que ce serait une journée pour les échapper. J'avais raison.
Nous étions représentés et nous avons pu mettre en œuvre le plan prévu. Cela signifie que nous ne voulions pas griller nos cartouches dès le premier kilomètre. Nous avons donc bluffé et encore bluffé jusqu'à ce que le groupe soit enfin formé. On était représenté par 2 coureurs et c'était parfait. Qu'elle soit devenue si grande qu'un deuxième groupe nous ait rejoint, eh bien, ça n'aurait pas dû arriver. Mais Trek n'était pas dans le premier groupe et il voulait absolument y être. C'est pour ça qu'ils ont réussi à revenir avec Mads Pedersen pour le sprint intermédiaire. Et oui, le groupe a bien roulé malgré sa taille et il a creusé un écart de 8 minutes. Qu'il a plus ou moins maintenu. Ils sont arrivés avec 7 minutes 32 d'avance, le groupe. C'était vraiment de la course cycliste. Nous avons eu 2400 mètres de dénivelé aujourd'hui sur plus de 200 km et une moyenne de 49.
Et il y a eu du rythme toute la journée. Je viens de parler brièvement avec Remco ou Florian. Ils étaient tous pio. C'était une vraie course aujourd'hui. Je peux l'imaginer. Si je veux être méchant, je peux demander est-ce que l'échappée a peut-être un peu trop bien roulé?
Parce qu'on avait encore un candidat devant avec Tom Pidcock, moi qui pourrait potentiellement jouer un rôle au classement général. Tu as dit qu'à l'avant, ça roulait vraiment fort. Comment as-tu perçu cette situation alors que cet écart devenait de plus en plus grand?
Je ne suis pas devenu nerveux car il avait 11 minutes ou plus de 11 minutes de retard avant l'étape, Tom Pidcock. Et il ne les a pas laissés filer volontairement, il les a perdus parce qu'il n'est pas tout à fait aussi bon que les meilleurs devant. Et aujourd'hui, il a fait un grand coup. Il est actuellement à la 4e place du classement général. Cela signifie que Florian Lipowitz a aussi perdu une place, mais pour nous, ce n'est pas dramatique. Et nous pensons que Tom Pidcock est un grand coureur, champion olympique de VTT, vainqueur d'étapes sur le Tour de France et sur le podium du World Tour l'an dernier. Mais je pense qu'il n'a pas la forme de la dernière World et je crois qu'il terminera le Tour de France dans le top 10, mais pas sur le podium. Ce n'est donc pas un drame pour nous qu'il soit actuellement 4e, d'accord?
Ce qui a mené à la situation où vous aviez Van Gils dans la montée finale, qui a même attaqué et a essayé de s'échapper. En même temps, vous étiez responsable dans le peloton de maintenir un rythme soutenu à cause de l'écart.
N'est-ce pas un dilemme dans lequel on ne veut pas forcément se retrouver? Ou est-ce que tu n'étais pas nerveux à ce moment-là? Non, cela n'avait pas d'importance dans ce cas, car nous avions 8 minutes d'écart et nous défendions nos intérêts à l'arrière dans le peloton réduit. Nous ne voulions pas laisser l'écart monter à 12 ou 15 minutes.
C'est pourquoi nos coureurs, surtout Mattia Cattaneo, ont participé au travail en tête.
D'un autre côté, nous ne voulions jamais combler l'écart. Nous voulions simplement maintenir la distance ou la réduire au minimum. C'était donc ça la stratégie. Et devant, Maxime s'est battu avec acharnement pour la victoire d'étape. Finalement, il termine quatrième de l'étape.
Ce n'est pas ce que nous espérions tous, mais il a fait une course solide. Oui, je veux justement aborder ce point. Peut-être un mot sur la situation. Florian Lipovits a aussi dit que le travail de poursuite ne dépendait pas que de nous, car Tom Pidcock devant ne menaçait pas seulement vous, mais en fait tous les coureurs du classement général, si l'on met Tadej Pogacar de côté.
Auriez-vous peut-être souhaité un peu plus de soutien ou pouviez-vous tout contrôler ? Non, c'était aussi une alliance. Les premiers à s'être inquiétés parce que Pidcock était devant, c'était l'équipe parrain Victorious. Ils ont été les premiers à rouler.
Ensuite, Lidl Trek a pris le relais et nous nous y sommes mis aussi. On n'a pas dépensé une énergie folle, mais on voulait aussi montrer notre présence et c'est pour ça qu'on a roulé.
Très bien, passons à ce que tu viens d'évoquer. Maxime Van Giel s'était super bien placé devant. Il y a eu une attaque vers la fin de la montée, juste avant de basculer. Était-ce la consigne qu'il tente sa chance là ou quelle était l'idée derrière?
Nous avions à ce moment-là encore quelques équipes avec deux, voire plus de coéquipiers dans le groupe de tête. Et l'attaque devait servir à ce que ce soit au moins, finalement, un contre un. Cela a en partie fonctionné, car Jeko Alula, l'équipe du vainqueur, Mauro Schmidt, aujourd'hui, était encore représenté par deux hommes. L'équipe UAE Emirates était aussi représentée par deux coureurs, et Maxime était seul, car nous savions que Van Dijk n'est pas un grand grimpeur. Et c'est toujours un désavantage quand un groupe de tête se dirige vers l'arrivée en étant en infériorité numérique. Mais nous n'avons pas pu l'empêcher. Jeko Alula avait deux hommes dedans et ils ont finalement remporté l'étape. Est-ce vraiment ce grand avantage de pouvoir jouer plusieurs cartes? Je veux dire, ils avaient même quatre coureurs devant à un moment donné.
Après la montée, ils étaient encore deux et UAE en avait aussi deux. Peut-on encore y faire quelque chose ou qu'aurait-il fallu changer pour que Van Giel ait une chance? Car au sprint final, il était pratiquement le deuxième plus rapide derrière Tom Pidcock.
C'est aussi, dans une certaine mesure, jouer à la roulette et tu n'as que certaines cartouches. Et quand elles sont tirées, elles sont tirées. Et si tu es en supériorité numérique, alors tu as, au lieu de 8 cartouches, 16 cartouches. Et la probabilité que tu touches quelque chose est définitivement plus grande et c'est pourquoi c'est beaucoup, beaucoup plus utile quand tu es à deux. Et l'équipe Jayco Hula, ils étaient deux. Non seulement Mauro Schmidt était devant, mais aussi Luc Plapp, et les deux sont de grands coureurs. Et finalement, ils ont profité de leur supériorité numérique et ont aussi gagné à juste titre.
Absolument, Sotsai. À quel point, disons, est-on déçu que ça n'ait pas marché? Comme tu viens de le dire, on n'a pas tant d'occasions que ça. Est-ce qu'il reste des cartouches à Van Giels pour retenter le coup sur une étape similaire? Je veux dire, on en avait déjà parlé dans l'avant-course. Il a eu une fracture du bassin en février, a été absent pendant 5 semaines, a retrouvé une forme impressionnante selon moi et il est vraiment aux avant-postes sur ce genre d'étape. Quel est ton avis sur lui?
A-t-il encore de l'énergie ou était-ce sa limite aujourd'hui? Non, il reste encore une ou deux étapes qui pourraient lui convenir aussi bien que celle d'aujourd'hui.
Et si la situation s'y prête, nous retenterons le coup. Mais oui, c'est clair, nous n'avons pas gagné aujourd'hui. Nous voulions gagner et forcément, l'ambiance dans le bus n'est pas à la fête. Voilà. Donc, elle est plutôt morose. Mais on ne peut rien reprocher à Maxime. Il était notre homme aujourd'hui. Il a réussi à intégrer le groupe de tête. Il s'est battu comme un lion et de ce point de vue, tout va bien, très bien.
Ralph, je voudrais aborder avec toi un sujet qui
prend de plus en plus d'ampleur chez vous. On l'a déjà un peu évoqué dans l'aperçu, on a effleuré le sujet à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est le moment. Il s'agit de votre relève, les équipes des moins de 19 ans et des moins de 23 ans. Il y a eu aujourd'hui l'annonce concernant Max Bock, par exemple. Il a terminé deuxième du contre-la-montre au début de la 62e Osterrundfahrt, une course majeure pour les jeunes coureurs. On a régulièrement des nouvelles d'un Lorenzo Finn qui a remporté le Giro Next Gen. Nous avons Karl et Emil Herzog qui font constamment les gros titres, juste pour citer quelques noms dont nous allons parler.
Peux-tu m'en dire un peu plus sur vos jeunes coureurs? Quelle est votre approche et qui est particulièrement prometteur? Oui, la relève, nous appelons les jeunes les rookies. Il s'agit de la catégorie moins de 19 ans et de la catégorie moins de 23 ans.
C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur pour des raisons historiques. Nous gérons une équipe des moins de 19 ans depuis 2007. Cela nous tient à cœur, mais nous voulons aussi en tirer profit. Nous sommes ici dans le sport de haut niveau. C'est différent du football. On n'est pas obligé de le faire. On peut courir dans le World Tour sans s'investir dans la relève. Mais la relève est très importante dans notre stratégie. Et notre rêve est de gagner un jour le Tour de France avec un coureur formé chez nous. C'est-à-dire celui qui s'est passé par nos moins de 19 ans, puis par les moins de 23 ans, et qui finit par gagner le Tour de France ou monter sur le podium, ou en tout cas, un de nos gars. Et ça, c'est une chose, ça permet de raconter une belle histoire, mais d'un autre côté, c'est évidemment plus facile de travailler avec des gens que tu connais depuis qu'ils ont 16 ou 17 ans.
Et là, tu apprends aussi à connaître les coureurs, ce qu'ils ont de bon et quels sont leurs petits défauts.
Mais ça, on ne le sait jamais. Quand on recrute un coureur de 24 ans, on a comme au travail un entretien d'embauche d'une ou deux heures et on décide de le prendre ou non. Mais il n'y a pas de période d'essai dans le cyclisme professionnel. Ça veut dire qu'on signe un contrat de 3 ans avec ce coureur de 24 ans. Avec le risque résiduel, est-ce que ça se passe bien? Si tu recrutes un pilote qui est avec nous depuis ses 16 ou 17 ans, c'est beaucoup plus simple car je sais exactement comment il fonctionne. Et c'est évidemment aussi une des raisons pour lesquelles nous faisons tout ça.
Peux-tu nous dire à quoi ressemble actuellement ce chemin, cette vision de former le prochain vainqueur du Tour au sein de notre propre équipe?
Quels sont les candidats les plus prometteurs, ceux dont vous diriez qu'ils seront prêts dans quelques années? Je ne veux pas citer de noms pour ne pas leur mettre la pression, mais nous en avons quelques-uns qui pourraient y arriver, ou peut-être même de futurs grands vainqueurs de classiques.
Et nous cherchons, bien sûr, dans le cyclisme sur route, mais nous cherchons aussi de plus en plus dans d'autres disciplines cyclistes. Donc, ce qui nous intéresse aussi, par exemple, c'est le cyclocross. Le VTT nous intéresse. Le cyclisme sur piste nous intéresse également. Et si quelqu'un se révèle dans un autre sport, alors nous l'examinons aussi très attentivement. Nous avons trouvé l'an dernier Lennard Kamna, qui court maintenant pour l'équipe Tudor, mais nous l'avions en fait découvert en patinage de vitesse. Nous avons trouvé Florian Lipovits en biathlon et nous n'en sommes pas encore au point de passer au crible tous les sports d'endurance avec l'intensité avec laquelle nous analysons actuellement le cyclisme, mais cela fait aussi partie de notre mission de continuer à développer cela, d'encore générer plus de données. Car peut-être le vainqueur du Tour de France 2035 ou 2040 joue peut-être encore au football actuellement.
On ne sait jamais. Tu ne dois pas citer de nom où tu veux le faire. D'ailleurs, nous avons une question d'auditeur à ce sujet de la part d'Axel Jacquin. Il s'intéresse beaucoup à vos projets pour Karl Herzog. Il demande « Courra-t-il encore pour Grenke Otto Eder la saison prochaine ?» Pour expliquer, c'est le nom de votre équipe des moins de 19 ans.
Ou est-ce qu'un passage en moins de 23 ans est envisageable, même s'il n'a que 17 ans sur le papier ? Non, il doit même changer. On ne peut courir que 2 ans en moins de 19 ans et Karl Herzog courra chez nous en moins de 23 ans l'an prochain.
D'accord. L'un des grands espoirs allemands, je pense. Nous avons encore un ou deux autres noms. Ce qui m'intéresse aussi, et nous l'avons déjà un peu abordé, c'est la façon dont les Français gèrent leurs jeunes, dans ce cas, Decathlon avec Paul Seixas. Tu as souvent dit que vous vouliez former vos jeunes coureurs avec plus de précautions. Comment cela se passe-t-il concrètement? À quel moment vous dites-vous, d'accord, on donne à quelqu'un qui a peut-être, je ne sais pas, 20, 21, 22 ans, la chance de courir en World Tour? Oui, il s'agit surtout de savoir comment gérer la charge d'entraînement et de compétition.
Cela signifie que comment augmenter l'entraînement. Il faut savoir qu'en moins de 19 ans, les gars parcourent environ 15 000 km. Les coureurs professionnels parcourent 30 000 à 35 000 km par an. À mon avis, il est plus durable d'augmenter progressivement de 15 000 vers 30 000, mais on peut bien sûr l'augmenter rapidement. Les collègues de l'équipe Decathlon et Paul Seixas ont augmenté cela très, très rapidement. La charge d'entraînement de Paul Seixas est publique et elle est immense alors qu'il n'a que 19 ans. Je l'ai constaté ce matin, nous étions avec l'équipe Decathlon à l'hôtel. L'hôtel était déjà pris d'assaut par les fans dès le matin à cause de Paul Seixas. Le gosse a 19 ans, donc il doit déjà encaisser pas mal. C'est l'espoir de la nation cycliste. Et je suis vraiment curieux de voir comment cela va se passer pour lui, comment la suite va se dérouler. Je leur souhaite le meilleur car je le connais personnellement. C'est un chic type, quelqu'un de très terre à terre, mais c'est énorme tout ce qui lui tombe dessus, notamment la charge de compétition. Il court directement le Tour de France. Il n'a jamais disputé d'autres courses de 3 semaines. Il a la pression de toute une nation et il a bien sûr son entraînement pour pouvoir suivre à ce niveau, je ne dirais pas de 0 à 100, mais certainement de 30 à 90.
Et il reste à voir comment le garçon va encaisser ça. Oui, mais cela signifie chez vous que vous n'avez pas encore cette charge d'entraînement chez les moins de 19 et moins de 23 ans qu'a un Paul Seixas, mais qu'elle n'arrive qu'une fois sortie des moins de 23 ans.
Nous avons plutôt choisi pour nos gars la voie traditionnelle, en commençant le tout un peu plus lentement. Les meilleurs actuellement dans notre moins de 23 ans sont définitivement Lorenzo Fin, puis Maganotti, et nous avons aussi David Donati. Ce sont 3 Italiens. Ce sont certainement des coureurs très, très talentueux, mais là aussi, nous restons protecteurs et nous ne les laissons pas encore s'entraîner à hauteur de 30 000 km par an.
D'accord, j'ai réussi à obtenir 3 noms de ta part. Merci beaucoup pour cette analyse et nous sommes impatients de voir quand ils feront leur entrée dans la cour des grands. Comme je l'ai dit, quiconque suit un peu les catégories de jeunes ne pourra de toute façon pas passer à côté de votre équipe.
Non, enfin, chez les jeunes, on les prend au sérieux, comme je l'ai dit, mais on y obtient aussi de superbes succès. On a gagné Paris-Roubaix Espoir avec David Donati. On a gagné le Giro d'Italia Espoir avec Lorenzo Fin. L'an dernier, on était la deuxième meilleure équipe au monde chez les Espoirs et la meilleure équipe au monde chez les moins de 19 ans. Donc ici, mes gars qui sont responsables des jeunes font un travail formidable et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Mais nous pouvons aussi, ici, les ressources peuvent toujours être plus importantes. On peut toujours dépenser plus d'argent pour les recruteurs et ainsi de suite, mais là aussi, nous sommes limités et c'est pourquoi nous voulons croître de manière organique et ne pas passer de 0 à 100 en ce qui concerne l'infrastructure pour les débutants. Jusqu'ici, ça fonctionne bien. Tu as énuméré les succès.
Ralph, nous en terminons avec ce sujet de fond et nous nous tournons vers demain car ce sera vraiment difficile. Si l'on regarde le profil, il n'y a pas un seul mètre de plat. Il y a 4 ascensions, dont 3 de première catégorie. On traverse vraiment les Vosges de part en part.
Qu'attends-tu de demain? Eh bien, demain, pour moi, ce sera une grande confrontation entre les coureurs qui se battent pour le podium. C'est des montagnes russes à travers les Vosges avec près de 4000 mètres de dénivelé, puis une arrivée au sommet au Markstein. Je connais la montée. Nous l'avons déjà gravie lors du Tour de France. Je pense que demain sera une course très claire entre les favoris. Je vois peu d'échappées demain. Il y aura une échappée, mais je ne crois pas qu'elle ira jusqu'au bout. Et dans la montée finale, les meilleurs coureurs de ce Tour de France vont se livrer un duel et j'espère que nos gars, Remco et Florian, avec le soutien de Jai Hindley et, je l'espère aussi, de Maxime Van Gil, s'en sortiront très bien demain.
Très bien, tout a dit. Nous suivrons cela demain. Pour aujourd'hui, c'est tout. Hein. Nous attendons l'étape de demain avec impatience. Merci beaucoup, Ralf Denk.
Avec grand plaisir. Salutations à tous et bonne soirée encore une fois.
C'était l'édition actuelle de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et d'IPEN Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine édition.